Alors bonjour à tous. Alors, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, paracha de Kitissa, la Torah nous explique et nous raconte le maasé du Hegel. Certainement que vous avez eu l'occasion déjà de réfléchir sur ça, vous avez entendu des rabbanim. Mais là-bas c'est marqué que les Béné Israël, ils ont eu ce Nissayon, cette épreuve incroyable, que juste après qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu tellement de miracles, ils ont vu tellement de choses extraordinaires. Et après, ils ont entendu déjà la parole d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a eu déjà le Mamad Har Sinaï. Et Moshe, il est monté pour recevoir la Torah. Vous savez, quand c'est marqué que, c'est écrit là-bas dans Shabbat, que quand Akadosh Baruch Hu a commencé à parler, alors les Béné Israël sont morts. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire que les Béné Israël meurent? Il a fallu faire Triat HaMetim, la Gemara raconte, ils reculaient, les Malachim les remettaient devant. C'est un maasé incroyable. Comment c'est possible qu'après ça, il y a pu avoir le maasé à Hegel? Et là-bas, quand on dit que les Béné Israël mouraient, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il a créé une distance avec le monde pour que l'homme puisse exister. Exactement pareil qu'un homme, on lui laisse un certain degré de liberté pour qu'il puisse se réaliser. Maintenant, par rapport au rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus puissant parce que Akadosh Baruch Hu, pour que la matière elle existe, Bichlal, il a fallu que lui, il sorte un petit peu de la matière. C'est comme si on disait que Hachem lui-même, il est antimatière. Donc s'il est antimatière, donc la matière, elle peut exister si Hachem, il s'éloigne de la matière. C'est comme si vous avez une feuille de papier et vous la mettez dans un four. Vous savez, les fours qui servent à faire fondre le métal. Alors, ils sont à 3000 degrés. Maintenant, si vous mettez une feuille dans le four, elle ne peut pas rester. Elle est antinomique avec le four parce qu'elle va brûler en une seconde. Une feuille de papier dans un four à 3000 degrés, elle brûle en une seconde. Donc la matière, en vérité, elle est antinomique avec Akadosh Baruch Hu. Donc pour que la matière puisse exister, il a fallu qu'Hachem s'éloigne de la matière. Pourquoi? Parce que Hachem, quelque part, il est antimatière. Vous me suivez ou non? Hachem, il est antimatière. Donc pour que, puisqu'il n'est pas matière. Donc pour que la matière puisse exister, il a fallu qu'Hachem s'éloigne. Maintenant, si Hachem, il est antimatière, donc la matière, elle est anti-Hachem. C'est logique. Ça veut dire que si quelqu'un, il est matérialiste, il n'arrive pas à comprendre un cas de jour au coup. Parce qu'encore une fois, puisque la matière peut exister que dans la distance avec Hachem, donc celui qui est matériel, il a une distance avec Hachem. Donc lui, il dit, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre Dieu. J'arrive pas à sentir la Torah. Mais c'est normal. Si tu es matière, tu es anti-Hachem. Si tu es Hachem, tu es anti-matière. Si quelqu'un il est proche du spirituel, il est loin du matériel. Si quelqu'un il est proche du matériel, il est loin du spirituel. Ça s'appelle Timtum Alev. Quelqu'un qui est gasse, quelqu'un qui est grossier, quelqu'un qui n'a pas de finesse, quelqu'un qui n'a pas d'intellect, il est loin des choses fines. C'est pas qu'il est condamné. C'est Stam, il n'a aucun rapport avec ça. C'est comme si un bœuf, vous voulez lui expliquer un chidouche. C'est un bœuf. Tu dis, mais je ne comprends pas, mais si je donne une grande Messirut Nefesh, et si je lui donne de tout, avec tout mon amour, mais c'est un bœuf, il te regarde comme ça. C'est un bœuf. Un bœuf, c'est un bœuf. Un bœuf, il est matière à 100%. Comme il est 100% matière, il est loin de ce qui n'est pas matière. Il est loin du Sechel, à plus forte raison qu'il est loin du Rouhani. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé, c'est l'intervention d'Hachem dans le monde. Cette intervention, elle est infinie. L'infini, quand il rentre dans le fini s'arrête. C'est pour ça que les commentaires, ils disent que les oiseaux, ils ont arrêté de chanter, l'arbre a arrêté de pousser, tout le monde s'est arrêté. Encore une fois, ce monde-là, il ne peut exister que le degré de liberté du monde, il peut exister seulement parce qu'Hachem, il est en dehors. Exactement pareil que toi, si le surveillant général, il te regarde comme ça, tu fais pas de bêtises. C'est impossible. Si le directeur, il est derrière toi, tu fais pas. Alors, quelque part, il y a une certaine distance pour que toi, tu puisses évoluer. Ton père, s'il est derrière toi, tu n'as pas de libre arbitre. Alors, il crée une certaine distance pour que toi, tu puisses exister. Maintenant, cette distance, soit tu peux en profiter pour être indépendant et pour être un adulte et être mature, soit tu peux en profiter pour être un imbécile. C'est un choix qui t'appartient, mais c'est dans la distance. Et cette logique-là, c'est que les Béné Israël, maintenant, ils avaient un lien avec Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il s'éloigne d'eux. Comment il s'éloigne? Parce qu'il part, pour recevoir la Torah. Il leur a dit, je reviens dans 40 jours. Il est parti à Hatzot. Malheureusement, vous savez, quand on parle de la sixième heure, on peut parler du début de la sixième heure ou de la fin de la sixième heure. Parce que la sixième heure, elle dure une heure. Donc, à 5h05, c'est le début de la sixième heure. D'accord? Ou à 6h01, c'est la fin de la sixième heure. Il dit, quand il est parti, il a dit, je reviens dans 40 jours. Maintenant, c'est marqué dans le Passouk, Vayar Aham, Kiboshesh Moshe, ils ont vu ils ont vu que Moshe a tardé. Alors la Gemara dit Altikre Boshesh et la Baouchesh. Ils sont venus, six, ils sont venus la sixième heure. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est marqué? Que le Satan, il est venu chez les bénis d'Israël. Il leur a dit. Comme ça, c'est marqué. Ve'irvev et ta'olam. Il est venu, il a mélangé le monde. Amar lahem. Moshe, Raphaël, Echan ou. Moshe, votre maître, où est-ce qu'il est? Amoulou, ils lui ont dit, Alan Amarom. Il est monté en haut pour recevoir la Torah. Amar lahem, il leur a dit, Baouchesh, voilà la sixième heure, il est arrivé. Il a dit, je viens dans 40 jours. 40 jours, c'est la sixième heure. Il n'est pas encore là. Ve'louish Gichou Alav. Ils n'ont pas fait attention à lui, au Satan. Après, c'est marqué, Met. Il leur a dit, il est mort. Ils n'ont pas fait attention. Arénaem Dmout Mitato, il leur a montré l'image du cercueil de Moshe, le Kéver, comme quoi il est mort. À ce moment-là, ils ont commencé à avoir peur et ils ont été chez Aaron pour demander de faire quelque chose, de faire un dieu. Mais qu'est-ce que c'est cette notion-là de Moshe et Khanou? Où est-ce qu'il est Moshe? Maintenant, essayez de comprendre. La Gemara dans Baba Batra, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut se la répéter en moyenne une fois par jour. La Gemara, elle dit que ou à Satan, ou à Yetzera, ou à Malach Hamavet. En vérité, il y a un ange, un malach, qui a trois facettes. D'un côté, il est Yetzerara, donc c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, la moitié. D'un autre côté, il est le Satan, c'est celui qui nous propose la Avera et qui nous accuse devant Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, il y a l'ange de la mort. Mais c'est le même ange, le même. Donc quand c'est marqué que le Satan, il est venu chez les Bnei Israël, il leur a demandé Moshe et Khanou. Puisque le Satan, c'est Yetzerara, ça veut dire que les Bnei Israël eux-mêmes, ils se sont posé la question. Vous m'avez suivi? Maintenant, c'est quoi la question Moshe et Khanou? Où est-ce qu'il est Moshe? Ah, il faut comprendre une chose. Mettez-vous un petit peu dans la situation. Vous êtes en Égypte, tranquillement avec votre famille. Ça fait 210 ans, donc vous êtes né en Égypte. Donc vous êtes né esclave, vous avez grandi esclave. Vous avez un travail assuré, vous avez une cellule, vous avez des gens qui vous frappent, vous avez à manger tous les jours, c'est bien. Ça s'appelle l'Égypte. C'est la tranquillité de l'esclavage. Encore une fois, celui qui a connu la liberté, donc quand on lui parle de la prison, ça l'angoisse. Mais imagine quelqu'un, il est né dans une prison. Il a grandi dans une prison. Donc il n'a pas le malaise de la prison. Et un, il vient, il dit, allez, on s'en va, on sort. On part pour la liberté. C'est pas évident, tu dis, si j'ai la sécurité, si je suis bien. Imaginez encore une fois quelqu'un qui a grandi en prison. Pour lui, c'est dur. Ça veut dire qu'on lui propose la liberté. Mais c'est dur, il faut assumer, il faut... Ou il part dans le désert. Et avec qui? Avec la famille. Imagine maintenant, vous suivez cet homme-là, vous avez vous, vos 14 enfants, vous arrivez dans le désert, et vous n'êtes pas seul, il y a tout un groupe, vous êtes 3 millions de personnes. Et quand vous êtes bien dans le désert, bien perdu, il vous dit, écoutez... J'ai un truc à faire, je reviens. Il s'en va, il revient pas. T'es seul dans le désert. Qu'est-ce qu'on a fait là? On est parti. Moshe et Khanou. Où il est Moshe? Alors ta femme, elle commence à te dire, t'as vu, je t'avais dit de pas l'écouter. Regarde maintenant, on est dans le désert, on n'a même pas quoi manger. Les enfants, ils disent, on a faim, on n'a pas où dormir. Imagine le désert. Il est venu monsieur, il les a fait rêver, ils sont sortis, ils sont arrivés dans le désert, ils sont perdus. Alors ils ont dit Moshe et Khanou, ça veut dire comme Moshe et Khanou. Ils ont une peur. Parce que le dirigeant, l'organisateur, il a disparu. Or eux, quel lien ils avaient avec Akadosh Baruch Hu? Zéro. Quelle preuve ils avaient que Dieu existait? Zéro. Ils avaient quoi? Ils avaient Moshe. Moshe, c'était quoi? C'était le dirigeant. C'est lui qui leur a expliqué tout le projet. Maintenant, il a disparu. Non, maintenant, ils ont une peur. Ils ont une angoisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Echan où? Alors après, il leur a dit, Moshe, maintenant, il est mort. Après, il leur montre le kéver de Moshe. Mais encore une fois, puisque le Satan, c'est lié de Serara. Donc ça, c'est quoi? C'est le parhad, c'est la peur qui avait à l'intérieur. Qui avait à l'intérieur des Bnei Israël, eux-mêmes. Maintenant, on peut imaginer que ce n'est pas qu'ils ont une vision collective, c'est que chacun à l'intérieur de lui-même, il a eu cette angoisse. Pourquoi cette angoisse-là, elle est venue au moment du désert? Alors, il faut comprendre que cette notion du désert, c'est quoi le désert? Le désert, c'est un endroit où il n'y a rien. Vous savez ça, vous êtes au courant. Le désert, c'est un endroit où il n'y a rien. Oui ou non? Il n'y a rien dans le désert. Oui, non, oui, non?
Oui.
Non, il n'y a pas rien, il y a toi. Quand tu es dans le désert, ça veut dire que tu as rendez-vous avec toi-même. Dans le désert, il n'y a rien, il n'y a que toi. Tu ne peux pas compter sur l'ambiance, tu ne peux pas compter sur les éléments, tu ne peux pas compter sur les arbres, sur les fruits, sur les animaux, il n'y a rien, il n'y a que toi. Maintenant, quand toi, tu arrives dans le désert, on dit c'est quoi Midbar? Midbar, c'est Medaber. Tu sais, quand quelqu'un est dans le désert, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit parler. Maintenant, toi, tu arrives dans un désert. Par exemple, voilà, toi, tu es dans une école juive. Bon, tu dis, bon, c'est bien, on est entouré. D'un autre côté, tu dis, on est trop entouré. D'accord. Mais après, moi, j'ai beaucoup d'élèves, ils me racontent, ils me disent, on était dans une école juive, et puis après, on arrive dans une fac. Ils n'ont pas eu l'intelligence de faire un ou deux ans de yeshiva pour se grandir. Ils sont partis directement à la fac. Ils arrivent là-bas à Dauphine, à Jussieu. Ils disent, on est comme dans un désert. Il n'y a personne à qui parler, il n'y a pas le directeur, il n'y a pas le rave, il n'y a pas le surveillant général, il n'y a personne. Ici, on est comme dans une petite famille. On arrive là-bas, un traumatisme du désert. Qu'est-ce que tu vas faire dans le désert, tu es perdu? C'est pareil, maintenant tu te maries. Quand tu te maries, il n'y a plus ton père, il n'y a plus ta mère. Qu'est-ce qu'il y a devant toi, le désert? Comment tu vas construire? Maintenant, tu as un enfant, c'est le désert. Maintenant, tu prends ton premier travail. Tu es seul, en face de tes responsabilités. Quand tu es à l'école, imagine tu es dans une école de comptabilité. Alors, tu es en train de faire ton bilan. Tu as un problème, tu dis, monsieur, excusez-moi, je ne comprends pas. Maintenant, tu es vraiment comptable. Et tu es expert comptable. Et d'ailleurs, tu dois signer. Tu dois finir ton bilan comptable. 1 milliard d'euros. C'est ta signature. Si tu t'es trompé, tu vas en prison. Donc tu fais les calculs. À un moment, tu as un doute. Tu lèves la main, tu dis, excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas monsieur, papa. Ça y est, tu travailles. Tu travailles, tu es face à toi-même. Le désert, c'est quoi? C'est le moment où tu es face à toi-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a mis les ministres dans une situation où ils face à eux-mêmes. Face à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils demandent, Echan où? Quand tu es seul, attention, quand tu es seul. Tu as deux manières de faire. Soit tu vas te tourner vers ce que tu es vraiment dans le côté positif, soit tu vas te tourner vers ce que tu es au niveau négatif. Soit tu vas te laisser aller comme un imbécile et faire des bêtises, soit tu vas aller chercher le meilleur de toi-même et tu vas faire du bien. Mais ça, malheureusement, ça ne peut se révéler que dans le désert. Quand le dirigeant il est parti, exactement pareil, Lo Aleinu, imagine quelqu'un, il a un père. Et son père, il fait son rôle dans la maison. Un jour, Lo Aleinu, il perd son père. Le jour du deuil de son père à 120 ans, le père est parti, alors tout le monde se tourne vers le fils, il dit alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il dit on va demander à papa. Ah, il n'y a plus de papa. Ça veut dire que la vie c'est comme un tapis roulant. Tu es sur un tapis roulant, puis un jour, celui qui est devant toi, tu es tranquille, tu dis Baruch Hashem, il y a mon père, c'est bien. Un jour le père, il s'en va. À 120 ans, il s'en va. Alors maintenant tout le monde se tourne vers toi. Un jour toi aussi tu vas partir, tout le monde va se tourner vers l'autre. En fait la différence c'est quoi? L'enfant, il peut se cacher derrière l'adulte. Mais un jour l'adulte il s'en va, il reste quoi? L'enfant. Maintenant la vie elle s'adresse à toi. Maintenant qui c'est l'adulte? C'est Moshe Rabbeinu. Qui c'est l'enfant? C'est Am Israël. Maintenant, l'Israël, il voit que Moshe n'est plus là. Comment ils se conduisent? Comme des enfants. Ah, le problème, c'est ça. Puisque l'adulte, c'est la disparition de l'adulte, c'est une préparation à devenir adulte. Vous me suivez ou non? La disparition de l'adulte, c'est une invitation à devenir adulte. Alors maintenant, nous, on se prépare à devenir adulte. Maintenant, est-ce qu'au moment d'être adulte, on va être enfant ou on va être adulte? Le Satan, il s'en va. Moshe, il s'en va, le Satan, il vient. Donc c'est à ce moment-là qu'il vient. Donc le Satan, il vient toujours quand tu es face à toi-même. Face à toi-même, dans ta question. Qu'est-ce que tu vas répondre? Alors les Israélites, ils ont eu peur. Comment ils ont eu peur? Ils ont été voir Aaron. Ils ont dit, fais-nous un Dieu. Alors là-bas, les Mépharchim, ils se bagarrent pour expliquer que, évidemment que ce n'est pas Avodah Zarah, c'est impossible. Ils ont reçu la Torah. Enfin, ils ont reçu. Ils ont entendu les deux premiers commandements. Ils ont vu les miracles d'Égypte. Ils ont vu, c'est impossible. C'est impossible qu'ils sont rentrés dans un piège aussi grossier que l'Avodah Zarah. C'est pas le moment de faire Avodah Zarah. C'est comme si toi, tu as toujours mangé kasher, tu connais la lacha de kashrout, tu es en enseignant dans la lacha de kashrout, tu travailles dans un kollel de kashrout et tu es responsable de la kashrout. Ton premier nissayon, ça ne va pas être la kashrout. Tu vas manger ta ref. Non, peut-être tu vas regarder quelque chose de dégoûtant, peut-être tu vas oublier de faire la prière avec la kavana, mais ton épreuve, elle ne va pas être dans la kashrout. Maintenant, eux, ils n'avaient rien, donc comme ils votent, ils n'avaient que la emouna. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu Dieu en face d'eux. Maintenant, la première chose sur laquelle ils ont craqué, sur la emouna, c'est impossible, ils disent les commentaires. Donc c'est pas possible d'imaginer que quand ils ont fait le veau d'or, ils ont fait quoi? Ils ont fait Avodah Zarah. Donc c'est pas Avodah Zarah, c'est quoi? C'est que, il dit le Ramban, qu'ils avaient besoin d'un manhig, ils avaient besoin d'un dirigeant. C'est quoi cette notion de dirigeant? Ils avaient besoin d'un intermédiaire avec Hachem. C'est vrai, c'est logique. Même quand ils ont entendu les deux premiers commandements, ils ont vu qu'ils sont morts, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Donc ils ont dit à Moshe, toi tu as l'air de supporter, parce que lui il n'est pas mort. Tu vas parler avec Hachem, Hachem il va te dire la Torah, et toi tu vas nous enseigner la Torah. Parce que nous on n'arrive pas. Tu as besoin d'un intermédiaire. C'est exactement pareil. Maintenant, ils ont dit, nous, on va à l'intermédiaire. Quel genre d'intermédiaire? Bon, alors, fin d'intermédiaire. Et la fin d'intermédiaire? Cet intermédiaire, il représente quoi? Les forces de la nature. Ben Israël, il explique, c'est quoi le veau d'or? C'est les forces de la nature. Maintenant, eux, ils ont la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, il est là, il existe, mais seulement, il est caché derrière la nature. Donc, nous, on ne peut pas lui parler directement. On va mettre un intermédiaire entre Hachem et nous, qui s'appelle la nature. Et c'est quoi la nature? C'est la main d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà expliqué que Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est la midatadine, c'est la rigueur. Mais Elohim, c'est la même gématria que Ateva. Ateva, c'est quoi? C'est la nature. Ça veut dire qu'en vérité, la nature, c'est comme si on disait le bras d'Akadosh Baruch Hu. C'est la face extérieure d'Hachem. Je l'avais expliqué avec l'homme invisible. Vous vous rappelez où on a l'homme invisible? Vous ne révisez pas ou quoi? Là? C'est pas vrai? Ah bon? Imaginez un homme invisible. Il court, vous ne le voyez pas. Il tombe dans un bassin de peinture. Quand il ressort, vous le voyez. Parce qu'il est couvert de peinture. Maintenant, le Nimshal, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme invisible. La peinture, c'est quoi? C'est la nature. La nature, elle prend la forme d'Akadosh Baruch Hu. Donc à travers la nature, je peux voir Akadosh Baruch Hu. Or, on a dit que Elohim, c'est Ateva. Ateva, c'est la nature. Et c'est marqué dans les livres, c'est marqué Hachem, Hachem, c'est-à-dire Yud Kevavke, Mitlabesh Belokut. Il s'habille de Elokut. Maintenant, pourquoi Elohim, c'est la rigueur? Parce que la nature est rigoureuse. Essaye de mettre un coup de tête dans un mur. C'est rigoureux. On voit sur ta tête que tu as compris. D'accord? Tu sautes d'un avion, tu vas te faire mal. Pourquoi? Peut-être que c'est un matelas. Non, c'est pas un matelas, c'est du béton. Tu vas mourir. Tu dis, mais j'ai envie de vivre. Laisse béton, c'est impossible. D'accord? Parce que la nature est rigoureuse. Si tu bois un litre d'acide chlorhydrique, tu n'auras plus de problème de digestion. Au contraire, on voit à travers, c'est clair. D'accord? Pourquoi? Parce que la nature est rigoureuse. La nature, c'est Elohim. Elohim, c'est la rigueur. La rigueur, c'est Midatadin. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui ne croient pas en Yud-Kevavke, mais qui croient en la nature, les scientifiques, pour eux, la vie, elle est dure. Parce que c'est Elohim. C'est très difficile. Donc, c'est quoi cette logique? Que Hachem mitlabesh be'elokut. C'est-à-dire que nous, on perçoit Hachem à travers la nature. Donc, quand on voit la nature, n'importe qui analyse un peu la nature, en mathématiques, il regarde la nature. Il voit le fond des mathématiques, il comprend Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui va au fond de la physique, l'équilibre en physique, c'est 1. 1, c'est Hachem. Au fond de la nature, il y a Akadosh Baruch Hu. En génétique, tu vois que la probabilité n'est pas possible. Donc tu comprends bien que c'est Akadosh Baruch Hu. En astronomie, tu vois que le monde ne peut pas se perpétuer s'il n'y a pas un équilibre. Donc c'est encore Akadosh Baruch Hu. C'est que si tu approfondis Elohim, si tu approfondis Ateva, la nature, tu trouves Akadosh Baruch Hu. Ah, tu vas me dire, il y a des gens qui ne voient pas. Après, c'est un autre problème. Qu'est-ce qui t'intéressait au départ? Si tu es objectif et tu cherches la vérité, tu vas trouver Hachem. C'est pour ça que dans les scientifiques, il y a soit des gens qui terminent croyants, soit des gens qui terminent le contraire. Ah maintenant, vous entendez beaucoup de gens qui terminent le contraire. C'est autre chose, parce que l'égoïsme, ils organisent à travers le gouvernement que la science, elle sert leur projet à eux. Or, ils savent que si des gens commencent à réfléchir dans le sens de Dieu, ils vont moins consommer. Parce que celui qui consomme, c'est celui qui pense que l'essentiel est dans la matière. Mais celui qui commence à penser à Dieu, il pense que l'essentiel, il est ailleurs. S'il pense que l'essentiel est ailleurs, il va consommer moins. S'il consomme moins, puisque la société elle fonctionne sur la consommation, elle est morte. Donc eux, ils sont intéressés que les gens ils pensent pas que Dieu existe. Comme ça, ils pensent que le but de la vie, c'est de remplir un caddie. Et en poussant leur caddie, ils arrivent à un but. Ou d'acheter le nouveau Walkman, ou le nouveau téléphone, ou de trouver un frigo qui fait ordinateur, ou un ordinateur qui fait frigo. Ils essaient de... C'est quoi cette dimension? C'est qu'ils avaient besoin d'un manig. Ils voulaient simplement avoir un dirigeant. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit on va prendre un élément qui va servir de lien entre Hachem et nous. C'est quoi? C'est la nature. Et le symbole, ça va être un veau. Un veau, c'est quoi? C'est quelque chose qui représente la nature et c'est le lien entre les deux. Et le problème, c'est quoi? Ce veau, il est en or. Et cette dimension du veau d'or, Egel Azahav, c'est quoi? C'est que quelqu'un, il peut croire que ce lien qu'il a créé avec Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire parce que d'un côté, il lui permet d'avoir un lien avec Dieu. D'un autre côté, il peut se cacher derrière et ne plus avoir besoin de Dieu. Le Beit Halevi, il explique qu'en réalité, le veau d'or, ça correspond quoi au Sechel? Qu'un homme, il dit, qui je suis moi? Moi, j'ai un corps. Au-dessus de ce corps, j'ai quoi? J'ai un cerveau. Au-dessus du cerveau, j'ai quoi? J'ai une conscience. Et au-dessus de la conscience, j'ai quoi? J'ai Akadosh Baruch Hu. Facile à comprendre. Pourquoi on met la kippa sur la tête? Pourquoi faire? Pour les coups de soleil? Non. C'est pour pas oublier que Hachem est au-dessus de notre tête. Maintenant, à quoi ça sert? Ça sert que de se rappeler que notre conscience, c'est pas elle qui nous maîtrise, ni notre cerveau. C'est la crainte qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si quelqu'un il développe bien sa conscience, il pourrait dire peut-être j'ai plus besoin de Dieu. Parce que, en fait, ma conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle objective mes actes. Mon intelligence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle objective mes actes. J'étais dans l'avion hier matin, je lisais un article de journal. Vous savez, les goïms, ils se battent beaucoup pour la laïcité. Ils veulent la laïcité. Il ne faut pas que la religion, elle se mélange avec la chose. Et malheureusement, souvent dans les journaux, tu vois que c'est des juifs qui écrivent les articles sur la laïcité. Ce qu'on appelle la laïcité. Oui. Tu dis, mais en réalité, c'est bizarre. Quel intérêt maintenant de la laïcité? Il dit, si un homme, il a un cerveau, il n'a pas besoin d'avoir une conscience morale, il n'a pas besoin d'avoir la culpabilité de la religion, il n'a pas besoin... Mais c'est bizarre. Parce que regardez, les gens les plus grands, ils avaient de l'intelligence. Les nazis, ils étaient intelligents. Les Américains, ils sont intelligents. Les Russes étaient intelligents. Mais pourquoi ils ont fait des grosses bêtises? C'est pourquoi, c'est très simple. Parce que si quelqu'un, son intelligence, n'est pas soumis à une dimension supérieure qui va vraiment objectiver ses choix, eh bien, il va faire au nom de son intelligence. Donc, au nom de l'intelligence, on peut faire les camps de la mort autour de l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle t'a dit qu'il y a différence entre les gens. L'intelligence, elle a dit qu'il faut gérer la différence. L'intelligence, elle a dit qu'il faut gérer la différence de manière industrielle. La différence, elle t'a dit qu'il faut détruire les gens qui sont différents. Commence par les handicapés. Ensuite, tu rajoutes les gens qui sont différents au niveau de leur religion. Après, tu enlèves les gens qui ont une conscience. Après, tu enlèves les juifs. Après, tu fais les camps de la mort. Donc, en vérité, c'est Alpisechel. Parce que si toi, tu écrases des cafards parce que tu dis c'est une espèce d'animaux qui me dérange, eux, ils ont tué les juifs parce que c'était une espèce de personne qui les dérangeait. Alpisechel, Alpi-intelligence. Donc, quel est le problème? L'autre, il a envoyé la bombe Hiroshima pour arrêter la guerre. Alors, première bombe, 32 000 morts. Oh ben, c'est comme ça, hein. Il y a des... Ah, tu vois, Alpisechel, on peut faire des choses énormes. L'autre, il a décidé de tuer les Arméniens. L'autre, il a décidé de... Avec l'intelligence, on peut faire des choses énormes. Donc, la seule manière de savoir si ton intelligence, en vérité, elle est au service du monde ou non, c'est seulement si au-dessus de ton intelligence, il y a une autre autorité qui n'est pas humaine. Parce que le chokhat de l'homme, c'est qu'au lieu de mettre son intelligence au service de ses choix... Il va mettre son intelligence au service de ses choix. Donc il va rendre, en fin de compte, son intelligence bête. Shochad yaver lechamim. À chaque fois que vous lisez l'histoire, on vous raconte comment est-ce que des gens qui avaient des responsabilités extraordinaires, ils ont fait des grosses bêtises pour des problèmes d'intérêt, des problèmes de kavod, des problèmes de petitesse, des problèmes d'argent. Donc tu vois bien que soi-disant un homme, il a une intelligence extraordinaire. Mais au nom de cette intelligence-là, il va faire des bêtises, mais il les fait par intérêt et il utilise son intelligence au service de son intérêt. La seule manière, et comme ça il explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch là-bas, au sujet de la tour de Babel, que l'homme, quand il se passe de l'homme à l'homme, il est dangereux. Il a besoin d'au-dessus de sa tête d'avoir une conscience qui est divine, qui elle n'est pas humaine, pour le rappeler à l'ordre. Donc ça veut dire que si ta référence c'est toi-même, toi tu peux te tordre alpi toi-même. Donc c'est seulement parce que toi tu as une référence extérieure qui n'est pas humaine, qui est divine, que tu peux t'en sortir. Il dit le veau d'or c'est quoi? C'est qu'ils ont dit, bon puisqu'on n'arrive pas à fonctionner directement avec Akadosh Baruch Hu, puisque Moshe n'est plus là, donc on va se créer une autre référence. C'est quoi la référence? C'est l'intelligence. L'intelligence c'est comme ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on est lié avec notre intelligence, c'est comme si on était lié avec Hachem. Mais l'intelligence elle-même elle est tordue, ouais. Elle peut faire que la personne elle pense différemment, elle peut faire des grosses bêtises. Alors maintenant il se pose une question. Ça va, vous arrivez à vous concentrer ou c'est pas évident? Ouais. Je vous pose une question. Quelqu'un qui comprend, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre ou c'est celui qui refuse de ne pas comprendre? Tu peux te concentrer, ça me dérange pas. Ouais. C'est bon? Vous avez compris cette question ou non? Celui qui comprend, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre ou celui qui refuse de ne pas comprendre? Faites marcher un peu la mayonnaise. Celui qui comprend, je répète, celui qui comprend, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre ou celui qui refuse de ne pas comprendre? D'accord. Le problème, c'est comme ça. Celui qui refuse de ne pas comprendre, il a l'angoisse de ne pas comprendre. Comme il a l'angoisse de ne pas comprendre, il a le malaise de l'ignorance. Le malaise de l'ignorance, il empêche de comprendre. Vous me suivez ou non? Regardez par exemple, je vous pose une question. Je vous donne la réponse, vous êtes tranquille. Mais si je vous pose une question et je vous laisse 10 jours sans la réponse, alors, au bout d'un moment, cette question est devenue un problème. C'est que maintenant, vous avez le complexe de ne pas comprendre. Maintenant, votre complexe de ne pas comprendre, il fait que quand je vous donne la réponse, vous me dites « Oh non, c'est nul. Oh, c'est pas ça, c'est impossible. Pourquoi ?» Parce que comme, entre-temps, tu n'as pas compris, donc tu as développé une angoisse sur le fait que tu n'as pas compris. L'angoisse de ne pas comprendre, elle t'empêche de comprendre. Donc, ne peut comprendre que celui qui accepte de ne pas comprendre. Mais celui qui refuse de ne pas comprendre, l'angoisse qu'il a de ne pas comprendre, l'empêche de comprendre. Ça va? Oui ou non? Comment on appelle la peur, comment on appelle la sérénité d'accepter de ne pas comprendre? En hébreu. Naase v'nishma. C'est ça, naase v'nishma. Naase v'nishma, c'est quoi? Naase, nous allons faire. V'nishma, nous allons comprendre. En attendant, t'as pas compris. Maintenant, pour faire, il faut s'engager. L'engagement à faire, malgré que tu ne comprends pas, ça donne une ouverture d'acte qui s'appelle faire. Ouais. Et cette ouverture d'acte, elle entraîne une ouverture d'esprit qui va faire que tu pourras comprendre. Donc celui qui s'engage à faire, malgré qu'il ne comprend pas, il est libre de comprendre. Mais celui qui a peur de ne pas comprendre, ouais, il se braque. Comme il se braque, il n'entend pas. Et comme il n'entend pas, il ne comprend rien. Comme en mathématiques, le prof, qu'est-ce qu'il fait? Il vous marque un théorème. On dit, oh monsieur, je ne suis pas d'accord. Je dis, attends papa, je vais te faire la démonstration. Ah non, j'aime pas ce théorème, je le trouve bizarre. Mais t'es bête ou quoi? D'abord, je te mets le théorème, Après, je te fais la démonstration. Maintenant, tu ne peux comprendre la démonstration que parce que tu as accepté le théorème. En mathématiques, ça ne dérange pas. Dans la religion, ça dérange. Tu dis, ah non, non, moi, si je ne comprends pas, je ne peux pas faire. Ah non, non, moi, si ce n'est pas clair, moi, si je ne le sens pas, moi... Mais papa, la capacité de comprendre, elle vient du fait que tu acceptes de ne pas comprendre. Pourquoi ? C'est comme dans la vie. Tu sais, dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Oui ? Comment tu arrives à vivre avec la vie ? Parce que tu dis, il y a ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas. Dans l'éducation, tu ne maîtrises pas tout. Dans le business, tu ne maîtrises pas tout. Maintenant, celui qui s'angoisse de ce qu'il ne maîtrise pas, il devient fou. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms ? Ils ont dit, on maîtrise tout. On maîtrise tout, on maîtrise tout. Donc les gens leur disent, achetez ça, vous serez heureux. D'accord ? On leur dit, écoutez, c'est les scientifiques, on aura toujours raison. D'accord ? Écoutez les docteurs, ils ont toujours raison. C'est un problème. Parce qu'on voit que les médecins, ils n'arrivent pas à soigner certaines choses. Donc ça crée un malaise. On voit que la télé, elle n'amène pas le bonheur. Ça crée un malaise. On voit que la consommation n'amène pas le bonheur. Ça crée un malaise. Donc d'où vient le malaise ? Vous savez qu'il y a 29 millions de personnes en France qui prennent des antidépresseurs. Pourquoi ? Parce qu'on leur a promis qu'ils allaient être heureux. Ils voient que ça ne marche pas. Ils prennent des médicaments. Le médicament, il vient pourquoi ? Il vient pour remplacer le fait qu'ils se sont rendus compte que c'est faux. Maintenant, celui qui accepte de dire « il y a des choses que je contrôle, des choses que je ne contrôle pas », c'est pas grave. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il y a des choses que je ne peux pas assurer. Donc c'est seulement parce que tu as eu la gaava de croire que tu allais tout maîtriser que tu t'angoisses de ne pas maîtriser. Maintenant, comment on appelle la sérénité de celui qui l'accepte qui ne peut pas maîtriser tout ? Hein ? Bah, le bitachon. Je ne maîtrise pas tout. Il y a un Dieu sur terre. Je ne maîtrise pas tout. Vous comprenez ou non ? Moi, je fais ma ishtadlout, mais il y a la part d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je vais chez le docteur, mais c'est Dieu qui me soigne. Moi, j'étudie la Torah, mais c'est Dieu qui m'envoie la Chokhmah. Moi, j'éduque les enfants, mais c'est Dieu qui va en faire des gens bien. Moi, je suis gentil avec ma femme et mon mari, mais c'est Dieu qui va faire le Shalom Bayit. Le secret du bitachon, comme ça, il explique le sabbat de Novardok. Il dit le secret du bitachon. C'est pas seulement que celui qui dit bitachon, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie la parnassa. Le yesod du bitachon, c'est que celui qui a bitachon, il a la sérénité, il a la menoucha. Parce qu'il sait que Machetalo Hubo ou Asa, il a fait ce qu'il pouvait faire, et ce qu'il ne peut pas faire, il ne le fait pas. C'est pas grave. Mais celui qui croit que tout est à l'Hubo, quand il ne réussit pas, il devient fou, puisqu'il s'est pris pour le bon Dieu. Vous avez compris ou non ? Donc celui qui accepte, pareil dans la compréhension, celui qui accepte de ne pas trop maîtriser, je ne maîtrise pas tout, et alors ? Je fais ce que je peux. La Guémara, je la lis. Je regarderai si je regarde, de toute façon, j'ai pas compris. C'est pas grave. Demain, je vais comprendre. Peut-être je vais comprendre dans un an. Peut-être je vais comprendre dans deux ans. Mais je vais comprendre un jour. C'est pas grave. Pour l'instant, je comprends pas. Mais si je dis, quoi, je comprends pas. Alors si je comprends pas le Tosfot, alors je comprends pas Rashi, alors je comprends pas la Guémara, alors j'arrête d'étudier. Tu vois ? Toi, tu as cru que si tu maîtrises pas tout, tu es foutu. Ouais ? Alors le contraire. Quand je te mets en insécurité, restez concentré parce que j'ai peu de temps. Quand je te mets. C'est 20 avant ? 30. Quand je te mets en insécurité, d'accord ? Alors maintenant, regardez bien, je te mets en insécurité, qu'est-ce que je fais ? Je te fais que toi, tu es perdu, tu es perturbé. Le fait de te perturber, c'est pour t'aider ou c'est pour t'enfoncer ? Parce que vous avez bien compris. Bon, je sais qu'on aurait eu besoin de plus de temps, mais c'est pas grave, vous êtes des gens intelligents, vous allez réfléchir. Dans un mois, vous avez un mois pour réfléchir. Donc, regardez. On a dit le Satan, il est venu, il a été merveilleux, le Ram. Il a mélangé la tête du Ram. D'accord ? Mais rabotaille de vous à moi. Vous savez très bien que le Satan, c'est un ange. Et un ange, c'est quoi ? Il est envoyé par Dieu. Donc, qui c'est qui a envoyé le Satan pour embrouiller les Bnei Israël ? C'est Hachem. Donc, les Bnei Israël, ils ont fait une grave erreur. Que quoi ? Ils sont trompés de 50 minutes. Ouais, 58 minutes. À 58 minutes près, ils ont cru que Moshe ne venait pas. Comme ils ne venaient pas, ils ont eu peur. Comme ils ont eu peur, ils sont affolés. Quand ils sont affolés, ils ont voulu quelque chose d'autre. À la place, au lieu de choisir leur Emouna, ils ont choisi un autre Dieu. Ils ont choisi le Vaudor. Ça va ? Maintenant, cette occasion, quelque part, de vous à moi, après, Moshe, il est revenu. Donc, il a rétabli la chose. Donc, le problème, c'est quoi ? C'était ce moment où Moshe n'était pas là. Où ils ont dit, Moshe, Ichan, où ? Qui c'est qui l'a organisé dans l'absolu ? C'est Akadosh Baruch Hu. Comme si Hachem, il veut leur dire, les gars, on va vous donner des grands rabbanim, on va vous donner une Torah extraordinaire. Mais il y a un moment, il va falloir savoir qu'est-ce que vous êtes devenu grâce à cette Torah. Tu es dans un bon milieu. Ouais. Il y a une fois, il a étudié à Bnei Brak pendant 3 ans. Il est venu à Paris, il a commencé à faire un peu d'études, après il a commencé à travailler avec des goïms, après il a enlevé la kippa. En 4 mois, il a enlevé la kippa. Je l'ai attrapé, je dis, je comprends pas. Tu as étudié 3 ans à Bnei Brak, avec la kippa, évidemment, tu ne vas pas te balader sans kippa à Bnei Brak. Tu vois sans kippa à Bnei Brak, tout de suite, tu vas dire, oh, un goï, oh, tu remets la kippa. En trois mois, tu as perdu la kippa. Maintenant, j'ai une question, moi. Est-ce qu'à Bnei Brak, tu as mis la kippa? Ou est-ce qu'à Bnei Brak, on t'a mis la kippa? Comment tu vas le savoir devant les goyim? Si, quand tu es devant les goyim, tu continues à garder ta kippa, tu sais que c'était toi qui portais la kippa à Bnei Brak. Mais si toi, devant les goyim, tu enlèves la kippa, ça veut dire que la kippa, c'est Bnei Brak qui te l'a mis sur la tête. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il organise que Moshe s'en va, il leur dit, alors les gars, oh, vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? On va voir. Dès que Moshe n'est plus là, dès que le surveillant n'est plus là, dès que le prof n'est plus là, on devient des clowns, on devient des gamins. Mais alors les gars, mais alors à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans? Si vous êtes des bahas, ça ne sert à rien. C'est la seule manière de savoir, justement, c'est quand il n'est pas là. Alors quand il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors qui on a devant nous? Des veaux d'or. Ils sont beaux, ils sont en or, mais ils ont des têtes de veau. Ouais. Ou non, on a des gens, des bnés sechel, des bnés dat. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Cette logique, c'est quoi? Et encore une fois, c'est un apprentissage, parce que toute la vie, ça sera comme ça. À un moment ou un autre, ton père, il va partir. À un moment ou un autre, tu vas sortir de la yeshiva. À un moment ou un autre, tu seras devant une halakha, tu auras une sheila. Qu'est-ce que tu vas faire? Et combien de fois, même dans les problèmes de couple, des problèmes. Les gens me disent, ah, mais vous comprenez? Ah, mais il y a ma mère, et mon beau-père, et l'argent, et le truc. Je dis, mais qu'est-ce que tu me parles? Tu es en train de me dire que tu as des sheilot? Tu as des questions, tu as des problèmes? Eh bien, évidemment. Mais la question, c'est quoi? C'est, alors, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux? Ouais. Une elle est venue chez moi, elle m'a dit, mais Rav, ma belle-mère, elle a fait ça et ça. Alors j'étais vexé, j'étais énervé, alors j'ai crié sur mon mari, après on s'est crié pendant une semaine. Je dis, mais madame, je comprends pas. Si vous avez un problème de Nida, eh ben vous allez chez un Rav, vous posez une question. Eh bien là, au lieu d'avoir une question de Nida qui vous pose un problème avec votre mari, vous avez une question de belle-mère. C'est aussi une tâche, d'accord? Donc. Non, c'est une tâche à remplir, bien sûr. D'accord? Donc automatiquement, vous avez quelque chose à faire avec. Donc c'est une question, répondez à la question. Maintenant, avant la question, il n'y a pas de question. Si vous avez le voir le Rav, vous dites, Rav, il y a une goutte de lait qui est tombée dans la viande. Le gars, il a remué le biberon, il y a une goutte de lait qui est venue dans la viande. Alors, il y a une chéla. Quand il y a une chéla, on va chez le Rav, on dit, Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on va calculer comment c'était, quelle quantité de viande, yesh bitoul, en bitoul. Maintenant, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de goy, il n'y a pas de lait, je vais chez le Rav, je dis, Rav, qu'est-ce que vous en pensez au cas où? Je dis, Atarot, c'est l'ilmod. Non, au cas où. Non, mais Atarot, c'est la vine. Non, au cas où. Atarot, c'est les tarets. Non, mais au cas où. Je dis, laisse-moi tranquille. Pas de question, pas de réponse. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est qu'il y a du lait qui est tombé dans la viande? Non, la question, c'est est-ce que tu as assez d'Irat Shamaïm pour aller voir le Rav? Ou tu dis, bon, ça va, attends, le Rav, il est joignable, il est loin, j'ai faim, Shabbat, ça rentre dans un quart d'heure, je vais pas commencer à courir. Mais c'est toute la vie, c'est comme ça. Tes lunettes, elles vont se casser juste un quart d'heure avant la rentrée de Shabbat. Alors, il y a une branche qui est cassée. J'ai le droit de les porter ou non? Alors, comme une branche cassée, c'est une chéla. Parce que s'il tombe, je risque de les prendre. Je risque de les truquer. Ah, d'accord. Alors, j'ai le droit de les mettre ou j'ai pas le droit de les mettre? C'est une halakha. Alors, je vais reprendre tout le Mishnah Berurah. Je vais regarder le Shulchan Aruch. Je vais appeler un rav. Ah, mais le rav, il va dire, mais t'es nul, je comprends pas. Tu sais pas cette halakha. Oh, j'ai honte de l'appeler. Oui, non, oui, non. Mais baba, Moshe, Echan, où? C'est marqué dans le Zohar que dans chaque Ben Israël, il y a un itsus de Moshe. Il y a une étincelle de Moshe. Une étincelle de Moshe, ça veut dire que toi, tu as reçu la Torah. Comme tu as reçu la Torah, quand tu as un problème, tu réfléchis et tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, Moshe, il est parti. Moshe, il n'est pas là. Mais le Rochem de Moshe, il est là. L'empreinte de Moshe, elle est là. Donc le juif chez toi qui cherche l'alaha, qui veut trouver une solution, qui ne veut pas se laisser aller, qui ne veut pas choisir le veau d'or, qui ne veut pas choisir la laïcité, qui ne veut pas choisir la PlayStation parce qu'il pense que la Torah, elle a un autre projet pour toi. Tu dis, oh, mais c'est pas évident, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie. D'accord, mais t'es un Ben Israël. Si Dieu voulait que tu sois un goy, il te ferait naître à Tombouctou, en Inde, ou à Boston. Pourquoi il t'a fait naître dans le 19e, dans une famille juive et en plus religieuse? C'est que t'as un rapport avec la Torah. Donc maintenant, quand tu auras une question, c'est vrai que c'est un problème. J'ai une tentation, j'ai une envie, j'ai une question, j'ai un problème, j'ai des choses que je comprends pas dans la vie, c'est vrai. Alors tu vas te poser la question. Quelle question tu vas te poser? Moshe, Khan, où il est Moshe? Alors à Botay, tu vas aller chercher quoi, un veau d'or? Pour remplacer, pour répondre à ta question, ou tu vas aller chercher la vérité à l'intérieur de la Torah qui est en toi, à l'intérieur de tes rabbanim, à l'intérieur de tes références. Et ça, chacun il va le savoir. Parce qu'on va tous passer par des séries de déserts. Le désert, on a dit, c'est une invitation à se rencontrer soi-même. Donc, Akadosh Baruch Hu, il allait envoyer Moshe Rabbeinu, il va revenir, il va leur donner la Torah. Mais, il leur a laissé une petite période où ils sont seuls. Cette période où elle est seule, c'est une période de détermination, où tu vas savoir au fond qu'est-ce que tu penses. Donc le veau d'or, il va exister dans toutes les générations. Dans toutes les générations, il y aura une tentation. Ils ont appelé ça le peuple l'époque des Lumières. Vous savez, les Bnei Israël, ils ont touché malheureusement à la Haskalah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va remplacer la Torah par l'intelligence, par la culture. On a dit, on ne va pas rester des gens qui sont loin des goyim, où on ne comprend rien à la science. Alors, ils ont commencé à quitter le ghetto et à rentrer dans les universités. Ils appellent ça le siècle des Lumières. Mais on n'a jamais vu une période aussi obscure, aussi sombre. Parce que le juif, il comprend rien. Le goy, il comprend rien. Essayez de comprendre que Rabbi Akiba, il vivait à l'époque des Gaulois. Oui ? Un Gaulois, c'est ce qu'ils ont dit les Gaulois. Les Gaulois, ils ont inventé le matelas. Ce qui est une sagesse incroyable. Puisqu'il a compris que quand il avait quelque chose en dessous de son derrière, ça faisait moins mal que quand il avait rien. Ce qu'on appelle un djihouk. Tu vois le djihouk un peu. Le type, il est assis par terre, il a mal au derrière. Alors, il met de la paille, il dit j'ai moins mal. Il dit al-koha. Imagine Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il connaît toute la Torah. Il connaît toute la science. Il connaît tout l'univers. Il connaît la trajectoire des particules. Il connaît la trajectoire de Jupiter. Il connaît le système sanguin, il connaît la nature de la Neshama, il connaît le destin du monde, il connaît le Gilgul de chaque personne, et un Gaulois. Tu mets Rabbi Akiba et un Gaulois. Un à côté de l'autre. Ouais. Un Raham et un Mongol. Un à côté de l'autre. Tu mets... Comment c'est possible? Et tu crois que le Mongol, il va nous expliquer c'est quoi la vérité? Mais Rabotai, rappelez-vous que d'après la science, quand vous allez au zoo, il ne faut pas donner à manger à vos grands-parents. C'est marqué, attention, ne jetez pas des cacahuètes à vos grands-parents. Parce qu'ils pensent qu'ils descendent du singe. Donc le singe, c'est son grand-père. Donc s'il jette des cacahuètes, il va empoisonner son grand-père. Mais qui on est, nous? Comprenez ou non? Qui on est? On a à peu près 20 000 ans d'avance sur eux. À peu près, en gros, 20 000 ans d'année. Ouais. 20 000 ans de réflexion d'avance. Donc, c'était quoi l'idée de dire, on va quitter la Torah pour comprendre mieux la vie grâce à la science. Mais la science, elle est bonne, mais elle est lente. Cette tentation-là, c'était un veau d'or. Cette tentation, c'est un veau d'or. Maintenant, dans chaque génération, il y a un veau d'or. Maintenant, quelqu'un, il n'arrive pas à vibrer devant sa Guémara. Alors, il dit, je préfère voir un DVD. Alors, il vibre plus. Celui-là, il n'arrive pas à s'exciter devant le Tosfot. Alors, il préfère avoir un jeu vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo, il te donne une satisfaction. C'est vrai. Mais t'as l'air de quoi, 34 ans devant ton jeu vidéo? Et t'as appris quoi? Tu dis, ouais, j'ai marqué 24 buts. Mais tu sais pourquoi est-ce que le jeu le plus vendu, c'est le jeu du foot? C'est pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas de but, ils passent leur vie à marquer des buts. Mais de quoi t'as l'air? De quoi t'as l'air de marquer des buts? Mais quel but t'as marqué dans ta vie? Quel but? Quel est le but de ta vie? Ah bah le but de ma vie, c'est marquer des buts. Mais t'es bête ou quoi? Mais t'es bête, t'as l'air de quoi? Donc ça veut dire que quand quelqu'un il a le choix entre faire une partie ou alors réfléchir sur une notion de la Torah, une notion, vous savez, j'ai des fois des professeurs de physique, des professeurs de philosophie, des doyens de faculté, ils écoutent un cours, il m'a dit, mais Rav Chetrit, vous êtes fou. Il m'a dit, mais une notion, vous avez parlé, vous avez donné par exemple, dans un cours, vous avez donné 134 notions. Mais une notion, il m'a dit, monsieur le rabbin, il m'a dit, un professeur, un doyen de faculté, il m'a dit, mais monsieur, moi, avec cette notion, je fais cours pendant un an à la faculté, un an. Il m'a dit, vous êtes fou de donner tellement. Mais notre Torah, elle est généreuse, parce que le monde, il est grand, et que l'homme, il est grand. Adam, c'est méhod. Donc un homme, il a besoin de milliers d'éléments. Donc toi, chaque phrase de Torah que tu prends, chaque réflexion que tu as, chaque tosfot, c'est un olam. Vous comprenez ou non? Des fois, tu poses une question à un rabbin, une question super compliquée. Il te dit, Tosfot Bechoulin Davkoufalef. Tu dis, quoi? C'est pas possible. J'ai un truc avec 50 000 branches. Il te dit, Tosfot. Il te mène le Tosfot, il dit, tire à Tadiouk. Il est médaillé, il dit, voilà. Il dit, ah, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un Tosfot. Vous savez combien il y a de Tosfot dans le chasse? Mais combien il y a de Diyukim dans les Tosfot? Après, dans les Gmarot, il y a combien de Diyukim? Mais il y a des milliards dans la Rot. Des milliards et des milliards. Ça veut dire que c'est une constellation de Hidushim. Maintenant, toi, tu as le choix entre une constellation de Hidushim ou alors une partie de jeu. Tout ça parce que tu as dit oui. Non, ça s'appelle oui, la console, elle s'appelle oui. Bon, d'accord. Il faut dire non à la oui. C'est ça la question. Que tu t'assoies devant ton CFR. Il vaut mieux réfléchir 2 minutes sur un Pirkei Avot. Relire encore une fois Tagmara, essayer de trouver exactement ce qu'il a voulu dire le Moré la veille, réfléchir 1 minute sur une notion de la paracha, parce qu'il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de Hidushim. Mais ça, c'est quoi? C'est seulement ce qui va te permettre. Et c'est ce qu'il dit le Beit Halevi. Que les Bnei Israël, ils ont cru qu'avec le Sechel, avec leur esprit, ils pouvaient remplacer Moshe Rabbeinu. Il a dit non, C'est seulement le tzivouï, c'est seulement la mitzvah d'Hachem qui peut les aider à garder le rapport avec Hakadosh Baroukh Hou. C'est pour ça qu'on a dit que celui qui accepte de ne pas comprendre, il a plus de chances de comprendre. Vous vous rappelez ou non? Allô, deux minutes. Celui qui accepte de ne pas comprendre a plus de chances de comprendre. Maintenant, c'est quoi la mitzvah qui symbolise l'acceptation de ne pas comprendre? Dans les 613 mitzvot, il y a une mitzvah qui symbolise l'acceptation de ne pas comprendre. Paradouma. Or, il dit le Midrash que la paradouma, elle est venue pour être métaken le chet du Hegel. Le chet du Hegel, c'était de croire que le cerveau, il peut remplacer l'intermédiaire avec Dieu. Elle est venue la paradouma pour te dire non, c'est que la crainte d'Hachem, c'est que le tzivouï, c'est que le commandement qui peut te permettre, sinon tu vas tomber dans le piège du chet à Hegel. Donc si quelqu'un, il accepte de ne pas comprendre, et qu'il a, encore une fois, il réfléchit. On n'a pas dit maintenant, Chas v'Shalom, que c'est devenu l'islam, ou c'est interdit de réfléchir. Tu dois réfléchir jour et nuit, Vagitabo Yomam Valaïla. Mais tu acceptes de ne pas comprendre parce que tu sais que Sechel Eloki, peut-être il est loin de toi, mais ce n'est pas grave. Mais dans ce qui t'est donné de comprendre, il y a à peu près 30 000 fois la culture de tous les goïms réunis. Dans ce qui t'est donné de comprendre. Ce qui t'est pas donné de comprendre, ce n'est pas grave, tu verras Olam Haba dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en attendant, si toi tu acceptes cette dimension-là, donc tu comprends l'épreuve qu'il y avait dans l'absence de Moshe Rabbeinu, tu comprends la tendance qui a été l'erreur du Chet HaEgel, et tu comprends la solution que la paradouma, elle peut t'apporter. Merci à vous.